Horizon Tech by ENI, le podcast de ceux qui font la tech d'aujourd'hui et feront la tech de demain. Si vous aimez la tech, vous aimerez les histoires de nos invités. Qu'ils soient chefs d'entreprise, étudiants, formateurs ou auteurs, ce podcast vous permettra de découvrir pourquoi ils et elles sont devenus des acteurs de la tech. Chaque mardi, un nouvel épisode sera disponible sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Ce podcast est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et à le partager sur vos réseaux sociaux. Horizon Tech by ENI. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Mon invité, Nathan Ménard. Bonjour Nathan.
Bonjour Alex.
Tu as une carrière, Nathan, bien remplie. Tu as eu une première carrière avant qu'on parle de celle qui nous intéresse aujourd'hui. Tu étais sportif de haut niveau en roller skating. Et aujourd'hui, tu t'es lancé dans un nouveau défi qui est au moins aussi prenant. Tu as créé une start-up qui s'appelle Drakkar. Tu es le cofondateur et le CEO actuel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Drakkar dans le monde de la tech?
Avec Drakkar, on fait de la digitalisation d'entreprise et on le fait via trois filiales. Une qui s'appelle Drakkaria, qui fait du diagnostic et de l'implémentation d'intelligence artificielle pour des PME et surtout des grands comptes. Une autre qui s'appelle Drakkar Accelerator, qui fait de l'implémentation d'ERP. On implémente l'ERP Odoo. Et une autre qui est ce que fait Drakkar depuis tout début, qui s'appelle Drakkar Studio, qui fait la création d'applications web et mobiles sur mesure. Et on a un peu évolué, mais à l'origine, on a accompagné une cinquantaine de startups, je dirais, sur de l'idée à la mise sur le marché de leurs produits.
Et ça fait combien de temps que Drakkar existe et comment vous êtes développé? Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes chez Drakkar?
Ça fait 4 ans. On s'est lancé 2 semaines avant le Covid. C'est chouette. Donc, on a un peu galéré au début. Ce qui fait que les 2 premières années, on n'était que deux, Jean Pulzo et moi-même. Et là, on a un peu grossi ces derniers temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 15.
Il y a les prévisions de croissance, je suppose, dans les années à venir, dans les mois, dans les années à venir, parce que l'IA, aujourd'hui, elle est à toutes les sauces. On dit qu'on s'en sert partout, ChatGPT, OpenAI, AI, et tout ça, ils font des chiffres fantastiques. On a Copilot côté Microsoft. Quel regard tu portes là-dessus? Quand tu as commencé Drakkar, tu avais déjà ce frémissement de se dire, tu dis, c'est à 4 ans, on n'en parlait pas autant. Il y avait déjà cette idée de se dire l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place et il faut qu'on monte sur ce créneau un peu en précurseur.
Ouais, on l'a vu parce qu'on a co-développé une IA pour un de nos tout premiers clients au tout début de Drakkar. Donc on a tout de suite mis les pieds dedans. Maintenant, 4 ans, c'était il y a pas longtemps du tout en fait, hein, à l'échelle des évolutions industrielles. Et pour autant, il y a 4 ans, c'était quand même très très coûteux de développer une IA, que ce soit en termes de temps homme et de ressources. Quand on a vu arriver ChatGPT, pendant 6 mois, j'ai très très peu dormi. Parce que du coup, j'ai tout de suite compris l'impact de cette révolution. Et c'était simple, c'était de se dire, tout d'un coup, on peut faire pour 20 fois moins cher et 4 fois plus puissant la même chose que ce qu'on avait il y a 2 ans. Et donc je me suis tout de suite dit qu'il fallait qu'on avait un double devoir. Le premier, c'était d'informer nos clients en fait, de cette révolution qui est en train de se passer. Et la deuxième, c'est de faire plus qu'informer, de vraiment aider parce que c'est un super outil, mais ça reste un outil. Et donc, comment on vient mettre cet outil dans son entreprise, c'est loin d'être évident, surtout qu'on est un peu loin de la tech.
Et c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui un peu des mises en garde qui sont faites autour, par exemple, de ChatGPT, qui est quand même le moteur d'intelligence artificielle dont on parle le plus, hein, qui est le plus connu du grand public. À la base, c'était il répond à tout, il répond bien et tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. On a aussi plein de possibilités qui sont autour de ChatGPT en termes d'automatisation. Tu vas peut-être nous en parler. On peut faire des interactions avec des produits comme Mac, comme Airtable, comme des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, à mon avis, tu vas peut-être confirmer ce que je dis, ChatGPT comme étant, on lui pose une question, on a la réponse, on l'implémente. Comment vous accompagnez les clients pour dire, on a ces outils d'intelligence artificielle qui peuvent être efficaces, qui peuvent nous aider? C'est quoi votre processus global d'accompagnement d'une startup en disant, on a cet outil, on a cet autre outil, voilà sur quel point on va pouvoir vous aider, que ce soit en termes de créativité, en termes d'automatisation. C'est quoi le process quand moi, demain, je crée ma startup, je viens vous voir, je dis comment vous pouvez m'aider? Comment ça part chez Drakkar pour partir là-dessus?
Dans ce que tu dis, il y a deux choses. D'abord, il y a les limites dont tu parlais, et ça, c'est une première chose, surtout quand on est sur des grandes entreprises. Il y a, comment dire, on a une vraie discussion sur les enjeux de sécurité, de confidentialité, etc. que l'entreprise a. Donc, on va chercher à bien comprendre parce que ça va nous complètement orienter les outils derrière. Et surtout, la deuxième étape qui est la plus importante, c'est la compréhension des processus. En fait, au début, on ne parle pas de tech. Et c'est le risque quand on a des outils aussi puissants. C'était déjà, tu parlais de Make, etc. C'était déjà le cas avant, en fait, avec les outils d'automatisation. C'est que tout d'un coup, on nous dit qu'on a des super pouvoirs, qu'on peut tout automatiser, que ça va être fantastique. Sauf que le risque, c'est de tomber dans le surprocessing, de venir suroptimiser, surautomatiser des choses qui sont finalement pas tant à valeur ajoutée. Et en gros, le cliché, c'est bah, j'ai passé 20 heures à automatiser une tâche qui prend 5 minutes une fois tous les mois, quoi. Et donc, on a une vraie prise de hauteur, en fait, au niveau des entreprises sur, OK, quels sont vos processus clés, quels sont ceux qui vous font mal. Et derrière, on va faire une sorte de diagnostic, de dire, bon, bah là, il y a des quick wins avec l'IA. Là, c'est pas un quick win, mais bon, on sait que c'est un processus qui, si on l'automatise, va avoir un très très bon ROI. Et donc, bah, va falloir créer des outils peut-être sur mesure ou faire des surcouches, mais on va y aller. Et puis après, il y a des choses encore plus structurantes où là, on parle bah, d'implémenter un ERP au sein de l'entreprise. Donc, il y a cette première prise de hauteur. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, souvent, on débloque des choses rien que sur cette phase-là. Et on n'a pas encore parlé d'outils. C'est que rien que le fait de voir ces processus un peu de haut et de se dire, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, bah, on se rend compte qu'il y a des choses. On peut les solutionner et qu'il n'y a pas besoin d'un outil quelconque pour ça, c'est juste du bon sens. Ouais. Donc, c'est cette prise de hauteur. Et après, c'est bah, de venir ouais, faire le diagnostic. Et là, on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais on prend des choses vraiment chouettes avec des mecs ou enfin, avec des outils de ce style.
Et justement, une fois que cette prise de hauteur elle a été faite, est-ce que tu as des use cases que tu pourrais nous partager sans trahir de secrets industriels ou tout ça, sur voilà l'IA, ce qu'elle peut faire, voilà ce qu'on a mis en place, voilà les gains, voilà on a gagné tant de minutes, tant de ressources. Est-ce que tu as des exemples à nous donner sur ce que vous avez pu faire déjà avec Drakkar?
Les use cases sont multiples. Je peux peut-être en parler de deux. Un où on a créé une surcouche, on a codé quelque chose en surcouche de GPT, et un, on a tout fait en no code. Ça pourra donner un spectre un peu plus large. Sur la partie code sur mesure, on bosse avec un client qui est une grosse entreprise qui fait de l'électroménager. Et en gros, ils ont une contrainte toute bête, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel outil, enfin un nouveau produit électroménager, il faut mettre une petite recette pour dire, bah tiens, avec je sais pas, ce blender, bah voilà, une recette de smoothie que tu peux faire. Sauf qu'en fait, quand on a une grosse entreprise, ça fait des milliers de recettes tous les ans. Et donc, faut créer la recette, faut la traduire à l'international, faut faire des visuels. C'est un process qui coûte des centaines de milliers, voire des millions, potentiellement annuels. Et en fait, aujourd'hui, avec de l'IA, on a des IA qui permettent de générer des images sur les visuels, d'avoir une vue de la recette. On a des IA qui permettent de générer le texte. En plus, maintenant, avec les assistants, etc., et le fine-tuning, de vraiment mettre des guidelines pour que ça respecte l'ADN de l'entreprise. Et pareil, que ce soit avec GPT ou d'autres IA, on peut faire la traduction. Si on utilise tous ces outils individuellement, bah en fait, on a des trucs qui se baladent de partout et la collaboration, si on est des dizaines de collaborateurs, c'est vite hyper compliqué. Et donc, nous, on a identifié les bons outils IA et par-dessus, on a créé une application sur mesure qui matche leur workflow où en fait, on a les différentes étapes de la recette, de bon, je génère la recette, faut la faire traduire. Bon, bah là, je vais la traduire en russe, donc je vais pouvoir assigner la personne chez moi qui parle russe pour vérifier que l'IA a pas dit des bêtises. Et on a créé toute cette surcouche. Qui fait qu'aujourd'hui, on a drastiquement réduit leur coût d'externalisation sur cette partie-là. Et donc, là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, et pour moi, l'IA a vocation à. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA, mais je pense que l'IA a vocation à disparaître dans le sens où il va y avoir plus de surcouches, il va y avoir plus d'outils qui vont rendre les collaborations beaucoup plus simples. Et c'est ce qu'on essaie de développer avec Draka. Et puis, un autre use case dont je peux parler un peu plus librement, parce que je me suis amusé à le faire pour moi-même, c'est l'automatisation d'une newsletter. En gros, on voulait lancer une newsletter bah, pour parler d'IA avec Drakkar, sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis j'avais envie de jouer un peu avec tous ces outils. Bah, si on prend créer une newsletter, c'est assez simple. Il y a en gros trois étapes. Première, c'est de faire une veille pour voir les sujets pertinents. Le deuxième, bah, c'est de venir approfondir un sujet qu'on a sélectionné. Se dire, OK, j'ai envie de parler de ce truc-là, mais qu'est-ce que la presse raconte? Et troisième, c'est d'écrire. Et en fait, en utilisant principalement deux outils, enfin trois outils, les assistants de GPT, enfin les GPTs en gros, mais version API, L8L, qui a un équivalent de Make, qui permet de connecter des API, et VoiceFlow, bah en fait, j'ai créé toute une surcouche qui permet, bah, on dialogue avec un chatbot, on clique sur des boutons, En gros, j'ai des sources qui sont présélectionnées, Forbes, TechCrunch, etc. Ça vient me sélectionner 300 outils. En automatique, ça vient me prendre les 10 meilleurs selon des critères que je vais donner. Ensuite, je dis, je vais approfondir tel sujet. Donc là, ça vient faire des recherches sur Google, etc. Et ça vient faire un résumé des news qu'il a compris. Et derrière, je viens lui dire de rédiger l'article. Et moi, j'ai déjà envoyé des articles que j'ai rédigés. Et je lui dis, bah, je veux que tu rédiges un article dans le style de ceux que je te donne. Et donc, ça fait un article qui est assez, assez bluffant, quoi. Ça suit vraiment l'ADN que je veux suivre. Et ça me fait gagner des heures à chaque newsletter.
C'est-à-dire que moi, j'ai un blog d'entreprise, un blog personnel, j'apprends à GPT mon style. C'est-à-dire, je lui dis, ben voilà, mon style, c'est ça. Est-ce que c'est tech? Est-ce que c'est friendly? Est-ce que c'est vulgarisateur? Il va apprendre de ça. Demain, je lui dis, va chercher dans ce domaine-là, sportif, tech, cuisine, etc. Je lui donne les sources. Il concatène tout ça, il le met ensemble. Et après, ben, il me sort ma newsletter. Et du coup, ça veut dire que quelque chose qui était peut-être hebdomadaire parce que ça me prenait du temps, demain, je peux le faire du lundi au vendredi. Tous les matins, vous avez votre petite dose de newsletter qui est faite pratiquement automatiquement.
Et exactement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais pour moi, la plus grosse révolution des derniers temps, c'est les GPTs, ou on appelle ça aussi les assistants. Alors, en gros, c'est OpenAI qui nous met à disposition des GPTs qui nous permettent de faire des agents IA, en gros, de faire des versions customisées, en fait, de GPT par rapport à nos usages. Et dans ces GPTs, on a trois choses. Enfin, ces GPTs sont constitués de trois briques. Il y a le prompt, comme on avait dans le chat GPT, donc là, du donner des instructions, pardon, lui dire mon style, c'est ça, ma cible, c'est ça, je veux tutoyer, je veux vous voyer, enfin bref, de donner des premières instructions là-dessus. Ensuite, on a la connaissance. Donc là, on va pouvoir lui dire, OK, bah, je te mets tous les articles de newsletter ou de blog ou peu importe que j'ai déjà rédigé. Et ça va être top parce qu'on n'a même pas trop besoin de s'embêter. On va juste lui dire, bah, voilà, mes articles, tu fais pareil. Et ensuite, on a les actions. Et donc là, les actions, ça va nous permettre de connecter ce GPT ou cet assistant au monde extérieur. Donc potentiellement, on va lui dire, tiens, bah, je veux que tu ailles faire des recherches complémentaires sur Google, eh bien, je vais te connecter à Google. Ou je veux que à chaque fois que tu me rédiges, enfin que tu as fini, tu me l'ajoutes dans un Google Doc, et eh bien, je vais te connecter avec Google Doc. Là et là, on peut se servir d'outils comme Make ou de Anytime pour faire ce truc-là. Et donc, c'est top parce qu'on a vraiment un écosystème qui nous permet de faire des grosses automatisations sans potentiellement faire appel. Avoir besoin de faire appel à une agence.
Et deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs combien de temps ça prend pour maîtriser ça, les GPTs et tout ça, et combien ça coûte? Est-ce que, bah, il y a GPTs, on sait que c'est à peu près une vingtaine d'euros par mois pour avoir la version la plus évoluée, tout ce qui est Mac et tout ça, combien ça coûte? En combien de temps quelqu'un qui est intéressé par ce que tu viens de dire peut maîtriser les GPTs, les assistantes et tout ça, et mettre en place ce flow d'automatisation pour faire par exemple sa propre newsletter?
Le temps, il est variable parce que ça va vraiment dépendre du niveau de profondeur qu'on veut avoir. À mon sens, la première étape, c'est déjà d'apprendre à bien prompter. C'est pas forcément ça qu'on a envie de faire, mais en fait, le prompt, c'est le message qu'on envoie à l'IA. Et si déjà on ne sait pas bien structurer son prompt, ça sert à rien d'aller plus loin. Et quand je dis structurer son prompt, en fait, ça inclut des choses plus larges. Typiquement, il y a une vraie notion à avoir sur jusqu'où, quel périmètre, à quel point mon périmètre peut être large ou à quel point il doit être fin. Sur une IA. Et généralement, il faut qu'il soit assez fin. Donc, si on veut faire. Bah, typiquement, si on a une entreprise, on se dit je veux automatiser mon marketing, en fait, c'est impossible. Pour réduire les sujets, typiquement, jusqu'à se dire OK, d'abord, je vais faire la newsletter. Et même là, quand je fais la newsletter, on voit, je parlais de trois sous-sujets. Et ce travail-là, de savoir segmenter, faut apprendre à le faire. Et donc, la meilleure façon d'apprendre à le faire à mon sens au début, c'est. Sans automatiser, c'est plus en promptant, en essayant de gagner des choses, du temps sur des tâches faciles. Ensuite, il y a toute la structure, donner l'audience, etc. Je connais un gars qui s'appelle Nathan Ménard, qui a fait une super vidéo sur YouTube sur le sujet.
On mettra le lien dans la description de l'épisode, comme ça on pourra aller voir ta vidéo, Nathan.
Donc voilà. Et ensuite, c'est de commencer à comprendre un peu les petites bêtises. Moi, mon conseil, et pareil, là, je suis en train de sortir une vidéo là-dessus, c'est de dire, dans un premier temps, il ne faut pas se prendre la tête avec les actions. La dernière chose dont je parlais, de vouloir connecter à d'autres choses, c'est quand même assez complexe, il ne faut pas y aller tout de suite, mais déjà de commencer à jouer avec un prompt plus de la knowledge, donc via un GPT qu'on vient créer soi-même et de voir comment ça fonctionne. Et pour répondre un peu plus concrètement, ça, en 1 à 2 jours, en fait, on a déjà une très bonne maîtrise. On fait souvent des conférences où où déjà, en rien qu'en une heure, en fait, les personnes sortent avec justement une bonne structure de prompt, ils ont des premiers usages. Et le tout, c'est d'y aller step by step. En gros, s'il y a des chefs d'entreprise ou des chefs de projet qui regardent ça et qui disent « je veux automatiser toute mon entreprise », c'est mort, ils vont se retrouver devant une montagne et ça va être hyper bloquant. C'est de sélectionner des toutes petites briques et au fur et à mesure d'élargir. Et donc de toujours commencer par un système simple qui va se complexifier au fur et à mesure et pas directement par un système complexe.
Et au fur et à mesure que vous discutez avec vos clients, est-ce que ça vous a amené des propres réflexions pour le développement de Drakkar? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez implémentées vous-même chez Drakkar en termes d'automatisation d'IA suite à des briefs avec des clients où vous vous êtes dit, tiens, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'avait peut-être pas pensé et du coup, ça pourrait nous faire gagner du temps sur telle et telle partie dans notre marketing, dans la recherche de clients ou même dans notre production personnelle chez Drakkar?
C'est sûr, en fait, c'est d'ailleurs la chance qu'on a, enfin, une des chances qu'on a, à mon sens, c'est qu'avec Drakkar, on fait une sorte d'écosystème entre nos clients et nous, et tout le monde se nourrit mutuellement, en fait, de bonnes pratiques qu'on peut avoir. Alors, sur les enjeux techniques, souvent, c'est plutôt nous qui apprenons les. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, donc c'est plutôt nous qui ça met à cœur là-dessus. Par contre, sur des processus, en fait, il y a plein de choses on n'imaginait pas sur la. Typiquement, la. De voir comment des content factories au sein de différentes entreprises produisent leur contenu. En fait, chacun a son processus. Et à des fois, on se dit, tiens, mais en fait, c'est vrai que là, telle étape, on n'y avait pas pensé. Et c'est pertinent. Ou à l'inverse, se dire, telle étape, on le sait, mais en fait, ça ne sert pas grand-chose. Typiquement, si je reprends mon processus de newsletter, nous, on allait beaucoup plus loin dans les recherches, on essayait d'aller sur des sources précises, etc. Et on a bossé avec une entreprise qui nous expliquait comment elle faisait ses recherches sur Google de manière un peu adaptée, on n'y a pas pensé, ça me fait gagner beaucoup de temps. À mon sens, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant sur les outils, en fait, c'est toujours sur les processus.
Justement, c'est peut-être un peu rassurant ce que tu viens de dire, parce que de l'extérieur, l'IA peut faire peur. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va remplacer tout le monde, ça va faire disparaître des centaines de métiers, des milliers d'emplois. C'est quoi, toi, ton regard? Tu es spécialiste de l'IA, Drakkar a 4 ans, ça fait 4 ans que tu t'en sers. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça va être quoi dans le futur, l'utilisation de l'IA? Qu'est-ce que ça a apporté? Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on passait au péage, il y avait toujours des personnes et il fallait donner la monnaie. Aujourd'hui, c'est tout automatique, il n'y a plus personne. Et à une époque, on se disait, ça va changer, c'est plus pareil. Puis, on ne se pose plus la question. Aujourd'hui, on arrive au péage, des fois, on n'a même plus besoin de s'arrêter parce qu'on a un bip. C'est quoi ton regard, toi, sur l'avenir de l'IA, à la fois côté peut-être un peu personnel pour tout un chacun et côté des entreprises? Tu vois comment les mois et les années qui viennent?
Déjà, pour répondre sur la notion de danger, enfin, le fait que ça puisse faire peur, je dis toujours, c'est que l'IA, c'est un outil. Donc, par exemple, je veux dire que l'IA, c'est comme une hache. Et une hache, on peut s'en servir pour couper du bois beaucoup plus vite que si on était à la main ou tuer des gens. Bon, en fait, je trouve que l'IA n'est pas dangereuse en elle-même, c'est beaucoup plus l'usage que les gens vont en avoir qui peut être dangereux derrière, mais. Donc, à mon sens, c'est un vrai enjeu justement d'avoir une connaissance globale de chacun. Surtout que ma vision, elle est assez simple. Elle est de dire que en fait, demain, tout le monde est sous stéroïde avec ces IA. Tu parlais des péages, mais on peut même parler d'Internet. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, tout le monde utilise Internet. C'est comme ça, c'est dans les usages. Et l'IA va en faire partie à deux niveaux. Les gens vont utiliser de l'IA directement et surtout, tous les outils qu'on va utiliser vont utiliser de l'IA derrière, sans qu'on s'en rende compte. Donc, il y a un vrai enjeu, à mon sens. De comprendre ces outils qui sont. En fait, on a une vraie chance, c'est que avant, pour pouvoir communiquer avec une machine, il fallait être développeur, il fallait savoir coder. Aujourd'hui, cette frontière qui était énorme avant se réduit de plus en plus à tel point que maintenant, avec un simple prompt, on peut communiquer avec une machine. Parce que finalement, quand on fait un prompt, quand on parle à une IA, derrière, c'est du code qui se produit. Donc, on n'a plus besoin d'écrire ce code-là. On avait déjà un peu ça avec le no-code, mais là, on va encore plus loin, à mon sens. Donc, on a une vraie chance, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'informatique. Et donc, pour moi, les personnes que tout le monde se sert de cette chance-là pour justement un peu jouer, être curieux, en fait, maîtriser le plus possible ces outils d'IA. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que 80% des jobs qui existent tels qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Maintenant, on sait un peu pourquoi. Je pense pas que, en tout cas, le comment, je pense pas que les gens vont se retrouver au chômage. Je pense juste que les métiers vont évoluer. Et qu'en gros, dans un premier temps, les personnes vont pas être mises au chômage par l'IA, mais par contre, vont être remplacées par des personnes qui, elles, savent utiliser l'IA. Et c'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de boîtes qui font de la formation IA. Je trouve ça bien, je trouve qu'il n'y en a pas encore assez, et qu'à mon sens, y a un gros d'accompagnement qui se construisent autour de ça.
Avant de conclure, une petite question un peu en dehors du champ. Tu as été sportif de haut niveau, j'ai dit au départ, en roller. Est-ce que toi, tu as une idée de ce que peut apporter l'IA dans le sport de haut niveau, justement?
C'est une bonne question. C'est vraiment beaucoup de choses. Ça va dépendre du sport. Bon, sur l'arbitrage, c'est une évidence, à mon sens. C'est que, en fait, si on compare un arbitre versus une IA, bah, une IA, on peut la nourrir de centaines de milliers de matchs, l'éduquer et lui dire c'est ça la bonne décision, c'est ça le règlement, et donc de manière stricte, tu dois suivre ça. Je pense que je ne sais pas à quel point les fédérations vont y venir, parce que quand même, le fait que l'arbitre puisse fauter, ça rajoute, mis derrière, du suspense quand même au match. Donc, à voir. Mais là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir des grosses avancées, à mon sens. Et après, bah, sur tout ce qui est, moi, typiquement, je faisais du roller slalom, donc peut-être que si ça s'approche plus, c'est de la danse, on va faire des figures en roller ou du patinage artistique. Bon, bah, comprendre comment bien faire un mouvement. Si t'as tout d'un coup, je peux lui envoyer toutes les personnes qui font bien le mouvement et lui dire explique-moi pourquoi et décortique-le pour moi. Bon, bah, ça peut être assez chouette. Mais il y a des petits usages, on va dire individuels, en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur, auxquels on a déjà plus ou moins accès. Et après, à l'échelle de fédération, bah, c'est toujours le même problème, c'est que si on n'a pas un vrai cadre d'un point de vue outil et donc d'un point de vue data derrière, bah, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc typiquement, si je reprends l'arbitrage, si on n'a pas de caméra, si on n'a pas de centralisation de tout ça, bah, on va pas pouvoir faire grand-chose. On n'est pas prêt encore. Et donc, il va y avoir une première étape. On a le cas pour la plupart des personnes qui viennent nous voir pour l'IA. C'est-à-dire, non, mais d'abord, on va aller sur de l'ERP ou sur des outils internes pour venir standardiser vos processus, pour venir industrialiser vos processus, et après, on va pouvoir suroptimiser. Et donc, ça va dépendre de l'avancement des fédérations là-dessus.
Il faut créer Drakkar Sport, du coup.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est en exclusivité. Non.
Mais bon, on en reparlera justement, parce que c'est quoi vos projets dans les mois, dans les années qui viennent? Alors, à part Drakkar Sport qu'on vient de lancer officiellement, c'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les mois? C'est quoi les grands enjeux dans les mois, dans les années qui viennent pour vous?
Là, c'est vraiment de continuer de développer Drakkar IA. Aujourd'hui, on a créé un outil qui permet de faire de l'amélioration continue dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on arrive, on vient faire de l'audit ou de la formation. Et derrière, il y a tellement de choses qui sortent toutes les semaines, tous les jours même, que c'est un peu compliqué de suivre. Et donc, on apporte une sorte de veille, enfin une veille personnalisée en fait tous les mois aux entreprises avec de la formation. On a fait toute une plateforme qui permet de collaborer là-dessus, qui marche bien. Donc, on veut continuer de développer ça parce que nos clients sont très contents, ça répond à un vrai besoin. Donc, on veut continuer de le propulser. Et l'autre chose, c'est on est en train de développer un hub qui permet qu'un outil, en fait, qui permet de garantir la confidentialité de d'utiliser de l'IA, mais de garantir la confidentialité et de permettre de la collaboration au sein de cet outil. Et donc là, c'est le gros développement qu'on est en train de faire, et on envisage de lever des fonds là-dessus. Donc voilà, il y a un gros outil en surcouche de l'IA. J'en parlerai peut-être, faudrait que je prenne un vrai temps dédié pour en parler, mais c'est ça. Et puis évidemment, après, tout le développement de Drakkar aussi, hein, sur le service, que ce soit sur Drakkar Studio, du développement sur mesure ou sur Drakkar Accélérateur avec de l'implémentation de RP.
Ben, ce sera l'occasion d'un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI dans quelques mois pour venir expliquer justement tout ce dont tu nous as parlé là ici. En tout cas, merci Nathan pour cet échange. On mettra tous les liens à la fois vers le site de Drakkar, vers ta vidéo explicative et ton LinkedIn pour les gens qui veulent te contacter, échanger avec toi. Merci beaucoup pour ces explications sur à la fois le côté startup et le côté IA qui intéresse de plus en plus de monde aujourd'hui. Merci Nathan.
Merci Eric.
Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Horizon Tech by ENI. Nous vous remercions pour votre écoute, et si vous appréciez cet épisode ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel invité, une nouvelle histoire extraordinaire dans Horizon Tech by ENI.